accompagnateurs musicaux. On va laisser les ados partir avec Pasteur Jacques. Maintenant, moi encore, après avoir prêché ici, je m'en vais à Faith Baptist Church une dernière fois pour ce voyage des fossettes pour le remplacer. Donc, Pasteur Jacques va revenir pour diriger le temps de prière. Donc, on va faire ça de cette manière-là. Je crois que les fossettes reviennent demain ou vendredi, je crois. Et puis, donc, Pasteur Jacques a fait deux dimanches là-bas. Moi, je fais deux mercredis. Donc, après avoir amené le message de ce soir, je vais aller là-bas. J'aimerais parler sur le sujet ce soir, nouvelle créature ou nouvelle fraternité. C'est l'essence de l'amour transformé. C'est pas moi qui choisis le thème. On traverse 1 Pierre, puis on prend les thèmes alors qu'ils se présentent à nous dans le texte. On commence la lecture au verset 22 de 1 Pierre, chapitre 1. On va lire jusqu'à la fin du chapitre. Ça dit, « Ayant purifié vos âmes et obéissant à la vérité par l'Esprit, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Dans un monde qui est tourmenté par la division puis par les conflits, l'appel à l'amour fraternel résonne dans la Bible. C'était ce que Jésus voulait qu'il nous définisse en tant que croyants. Il ne voulait pas que ce soit nos cantiques, même si j'aime nos cantiques. Ce qu'il doit nous définir, ce n'est pas des bâtiments d'église, même si on rend gloire à Dieu pour tout bien matériel qu'il nous confie. Ce qui doit nous définir, ce n'est pas notre habillement. Ce qui doit nous définir, ce n'est pas nos activités, nos divertissements. Ce qui doit nous définir, Jésus a dit, « Voici à quoi tous connaîtront que vous êtes mes disciples, que vous avez de l'amour les uns pour les autres. » C'est ça qui doit vraiment nous décrire et nous définir. Mais il faut que ce soit pas juste une affection superficielle. Superficielle, tu peux avoir ça peu importe où tu vas. On pourrait ce soir aller dans une convention de, je sais pas, telle compagnie de produits. Et puis vous allez voir, ils vous aiment. Vous allez le ralliement d'un parti politique, ils vont faire comme s'ils vous aiment. C'est superficiel, c'est là, ils vous donnent du café, ils vous donnent des beignes, ils vous demandent votre nom. Mais ce n'est pas de l'amour fraternel, c'est du marketing. Un amour sincère, profond, qui va transcender les barrières, qui va transformer les cœurs. Puis ici, dans 1 Pierre 1, 22 à 25, nous sommes invités à explorer l'essence même de cet amour authentique au sein de la famille du Seigneur. J'aimerais qu'on aille ensemble à la source, la pratique, puis à la nature durable de l'amour fraternel. J'aimerais qu'on remarque, avant de commencer, quelques mots. Si vous regardez avec moi le verset, verset 22, ça commence par quel mot? Ayant. Donc ça, c'est un état. On a déjà ça. Ensuite, le prochain mot, c'est pour. Remarquez, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l'Esprit. Pour. Pour, ça nous donne l'objectif. Donc, on a quelque chose. Pour, ensuite, nous donne l'objectif. Le troisième mot, je veux vraiment qu'on remarque, c'est le mot puisque. Et ce mot-là, on le trouve au début du verset 23. « Puisque vous avez été régénérés. » Donc, on a notre état, on a pourquoi, puis on a ensuite, ensuite, on a vraiment la cause ultime derrière nous, pourquoi c'est comme ça. Mais on a vraiment ces trois mots-là qui, pour moi, sont des points importants. Mais remarquez premièrement, au verset 22, la préparation à l'amour fraternel. L'amour fraternel, ce n'est pas quelque chose qui est spontané. Je vais m'expliquer. Ce n'est pas quelque chose qui arrive tout seul, comme ça. Il faut que tu t'y prépares. Alors, remarquez le verset 22 qui nous dit, « Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité par l'Esprit, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Moi, j'ai deux fils, je n'ai pas de filles, donc L'exemple que je vais donner là est fictif, OK? Mais supposez que j'avais une fille. Puis un jour, elle a un prétendant et un jeune homme qui veut venir demander la main de ma fille en mariage. Il y aurait certaines choses que je voudrais savoir au sujet de ce jeune homme-là. Je voudrais m'enquérir de lui. Je voudrais savoir s'il s'est préparé à pouvoir épouser ma fille. Il y aurait certaines choses que je voudrais savoir sur lui. Est-ce qu'il y a un job? Est-ce qu'il travaille? Est-ce qu'il y a un moyen pour faire subsister une famille? Je voudrais savoir, dans la mesure du possible, c'est sûr qu'il y a peut-être des limites aux questions qu'on peut poser, mais je voudrais savoir s'il est pur. Hein? Est-ce qu'il s'est gardé pour sa femme? Bon, s'il est venu à Christ plus tard, je ne sais pas. Mais je veux dire, présentement, là, est-ce que c'est quelqu'un qui est engagé envers ma fille, puis qui se garde pour elle? Là où je veux en venir, c'est que je veux savoir si marier ma fille, c'est juste un coup de tête, ou est-ce que c'est le genre de jeune homme qui va bien s'occuper d'elle. Maintenant, si on comprend que pour une relation pareille, il y a une préparation, un état dans lequel on se garde, qu'est-ce qui me ferait penser que je peux me pointer à l'Église ou parmi mes frères et mes sœurs, et mon devoir, c'est de les aimer, mais il y a une préparation pour ça. On doit se garder dans un certain état pour que lorsqu'on s'assemble, on puisse aimer. Remarquez le verset ici, ça nous dit encore, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l'Esprit, pour avoir un amour fraternel sincère. » L'amour fraternel, ce n'est pas quelque chose qui se fait sans préparation. Si on met deux ou trois chrétiens dans une pièce, on pense que l'amour fraternel devrait se manifester tout seul, mais c'est faux. Le verset dit bien que pour avoir un amour fraternel sincère, il faut purifier nos âmes en obéissant à la vérité. Savez-vous qu'est-ce qui pourrait m'empêcher, moi, de vous aimer comme je le devrais? Savez-vous qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de m'aimer comme vous le devriez? Qu'est-ce qui pourrait nous empêcher les uns les autres à avoir de cet amour fraternel? Une âme qui n'est pas pure. Si mon âme n'est pas pure, je ne vais pas aimer mes frères et mes sœurs comme je devrais. Parce que remarquez, il dit, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l'Esprit, pour avoir un amour fraternel sincère. » C'est quoi l'âme? C'est une question importante à répondre si on veut comprendre ce verset-là. Maintenant, je sais qu'il existe un débat entre l'âme, l'esprit. C'est quoi l'âme? C'est quoi l'esprit? Comment est-ce qu'on peut les définir? C'est quoi que l'âme fait? C'est quoi que l'esprit fait? Est-ce que les deux sont juste deux mots différents pour la même chose? C'est un débat qui est parfois soutenu dans les livres de théologie. Personnellement, moi, je suis convaincu que nous sommes des êtres qui ont trois parties. Un esprit, une âme et un corps. Par exemple, je peux m'appuyer sur 1 Thessaloniciens 5, 23. « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, j'ai une âme, j'ai un esprit, j'ai un corps, mais c'est quoi l'âme? Parce qu'il nous dit ici, « Ayant purifié vos âmes, » eh bien, si c'en est ainsi que nous sommes un être tripartite, l'âme, c'est là où réside notre intellect. L'âme, c'est également là où réside notre volonté. Et l'âme, c'est là où résident nos sentiments. Donc, ce que je veux, c'est mon âme qui le veut. Les décisions que je prends, ce n'est pas mon corps qui les prend. Ce matin, mon bras n'est pas allé à la cafetière tout seul, là. Ce n'est pas lui qui a décidé qu'il voulait un café, mon bras, c'est mon âme qui a décidé ça. Bon, peut-être que mon corps, qui était un peu dans les vapes, a dit à mon âme, ça serait bien d'avoir un café, ça va donner un boost. Mais ultimement, c'est ma volonté qui a choisi de prendre ce breuvage-là. L'âme prend les décisions, l'âme réfléchit, c'est avec aussi l'âme qu'on est en colère. C'est notre âme qui est attristée. C'est notre âme qui est joyeuse. Nos sentiments, c'est l'affaire de l'âme. Donc, si l'âme, c'est là où je ressens, où j'ai mes sentiments, c'est là où j'ai ma volonté, c'est là où j'ai mes réflexions, qu'est-ce que ça peut vouloir dire de purifier nos âmes? Bien, je ne veux pas être simpliste, mais alors, si c'en est ainsi, et mon âme est souillée, ça veut dire que mes pensées ne sont pas pures. Ça veut dire également que ma volonté est mal aiguillée. Ça veut dire que mes sentiments sont mal inclinés. Et le verset nous donne le moyen pour que notre âme, c'est-à-dire nos pensées, notre volonté, nos sentiments soient purs. C'est en obéissant à la vérité. Vous allez dire, ouais, c'est un petit peu large. Obéir à la vérité, c'est vaste. Là, ta parole est la vérité. C'est-à-dire que ce livre-là au complet est vérité. Mais vous savez, le Saint-Esprit qui est en vous, si vous êtes un enfant de Dieu, il peut vous dire, et il vous dit, il vous et il me convainc de péché. Il convainc le monde de péché. Je n'ai pas à me demander ce matin, je n'ai pas eu à lire la Bible en entier d'un couvert à l'autre, en une page à la fois me disant, « Ouf, il faut que je trouve ici toutes les places où je ne suis pas correct. » Le Saint-Esprit me le montre. Le Saint-Esprit me dit, « Éric, tu as un problème avec ça. » Puis il me le montre, puis il me convainc de pécher. Et il va me montrer, écoute, dans tel domaine, tu ne marches pas dans la vérité. Mais, en termes clairs, pour avoir un amour fraternel sincère, il faut que chaque personne marche dans la vérité, même en arrivant à l'Église. Des fois, on se prépare quand on va avoir le repas du Seigneur ou la Sainte Cène. Peut-être que si vous êtes comme moi, avant de venir même à l'Église, vous allez prendre un instant pour vous examiner, pour arriver à l'Église sans péché, dans le sens qu'il n'y a pas de péché non confessé dans votre vie. Puis ensuite, on prend un moment avant de faire la table du Seigneur pour justement s'examiner soi-même. Mais savez-vous que ça, on devrait le faire même quand ce n'est pas le repas du Seigneur? Parce que si nous arrivons avec l'âme pure, savez-vous qu'est-ce qui va être le résultat de ça? De l'amour fraternel sincère. Et si nous arrivons avec l'âme sale, quel en sera le résultat? L'absence d'un amour fraternel sincère ou un amour fraternel non sincère. Puis on va voir ça dans un petit instant. Mais le mot, en fait, tout de suite, le mot sincère signifie, maintenant je vais vous donner le mot grec, dites-moi si vous reconnaissez un mot là-dedans. Le mot qui est sincère en français, ici dans 1 Pierre 1, verset 22, c'est, en grec, c'est anoupokritos. Est-ce qu'il y a un mot qui vous sort là-dedans? Le mot hypocrite, n'est-ce pas? C'est anoupokritos. Maintenant, an, A-N, ça veut dire non ou pas, hypocrite. C'est-à-dire, un amour fraternel sincère, littéralement, ça veut dire un amour fraternel, pas hypocrite. Si je viens, moi, je viens à l'église ici ce soir, avec l'âme souillée, c'est-à-dire j'ai des pensées impures, ma volonté n'est pas en règle avec Dieu, mes sentiments, j'ai en moi des sentiments de l'amertume, des colères, des choses que je devrais confesser à Dieu, demander pardon et abandonner. Mais je viens à l'Église quand même dans cet état-là. C'est un des résultats de ça. Ça va endommager l'amour fraternel sincère. Et si je ne veux pas que les gens remarquent, je vais devoir faire semblant, ce qui veut dire que je vais devoir être hypocrite. Il dit... Je répète le verset, « Ayant purifié vos âmes, comment? En obéissant à la vérité par l'Esprit. » C'est l'Esprit qui va vous le dire. Pourquoi? Pour avoir un amour fraternel sincère. C'est possible de venir à l'Église et faire semblant. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Maintenant, comment est-ce que vous et moi, on pourrait appliquer le principe de purification de l'âme en obéissant à la vérité dans notre propre vie, afin de cultiver un amour fraternel sincère envers les autres? On doit réaliser que lorsqu'on tolère du péché dans notre âme, dans notre vie, ce n'est pas juste que ça fait entrave à nos prières. Déjà, ça, c'est grave. Ce n'est pas juste que ça déplaît à Dieu. Ça, c'est grave. Mais sur le niveau du sujet de ce soir, le sujet de ces versets-là, ça nous empêche, en tant qu'Église, d'avoir un amour fraternel sincère. Si je veux être un pasteur sincère, il faut que mon âme soit en santé. Si vous voulez être un frère, une sœur en Christ sincère, il faut avoir l'âme en santé. Encore l'âme, votre intellect soit pur. Il faut que vos pensées soient réglées selon la parole de Dieu. Il faut que votre volonté soit soumise à Dieu. Il faut que vos sentiments soient mis au diapason de Dieu. Et peut-être que le Saint-Esprit, depuis un temps, monte dans votre vie, quelque chose dans votre âme qui ne va pas. Eh bien, je sais que je ne veux pas lancer la pierre à personne, moi-même, dans ma vie. Des fois, mon âme ne va pas. Est-ce que ça nous est arrivé, des fois, de se présenter à l'Église? Quand même. Ben, je ne dis pas qu'on ne devrait pas, de ne pas aller à l'Église, c'est pas ça que je dis. Mais on est venu à l'Église. Notre âme ne va pas. Alors là, on a deux choix. Soit on fait semblant, ou on se met en règle avec Dieu, puis on a un amour fraternel, sincère. La Bible est simple. Puis des fois, on lit un des versets tellement vite, sans prendre le temps de les mettre dans leur tranche. Et puis, vraiment, ici, c'est ce qu'il nous dit. On purifie nos âmes en obéissant à la vérité, par l'esprit, pour avoir un amour fraternel sincère. Mais ensuite, remarquez, il donne le commandement de l'amour fraternel dans la deuxième partie du verset. Ayant dit tout ça, il dit, « Aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. » C'est un commandement. Vous savez, on vit dans un monde hostile. Probablement qu'il vous est arrivé quelque chose cette semaine, que c'était pénible. Peut-être c'était une attaque. Peut-être c'était d'être au travail, puis de voir et d'entendre ce qu'on y voit, puis ce qu'on y entend, puis on est chrétien, puis ça nous dérange. Peut-être que c'est une autre situation. Mais les croyants qui sont engagés pour Jésus ne trouvent pas de repos dans le monde. Les croyants qui sont engagés pour Jésus ne trouvent pas de sursis dans ce monde. Ceux qui vivent dans le monde ou qui cherchent les avantages du monde, tôt ou tard, vont être comme Lot. Ça nous dit que Lot était profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dissolution. Si tu es un enfant de Dieu, tu ne seras pas confortable dans le monde. L'apôtre Pierre, il parle à des chrétiens dans 1 Pierre qui sont persécutés, qui sont dans la souffrance. Puis il leur dit, écoutez, vous avez besoin les uns des autres. Vous avez besoin que l'Église soit ce lieu d'amour fraternel sincère, parce que Dieu sait que vous ne le trouverez pas en dehors de l'Église, cet amour fraternel sincère-là. Et puis, il leur dit, aimez-vous ardemment. Alors, je me suis posé la question, ça veut dire quoi, ardemment? Tu sais, je comprends le mot. Mais j'ai été étonné de découvrir que le mot qui se cache sous ardemment, le mot grec, si on veut, on le trouve seulement 3 fois dans le Nouveau Testament. Donc, c'est un mot qui revient rarement. Je me suis dit, OK, qu'est-ce que ça veut dire, ce mot-là? Je suis allé voir les 2 autres fois. On l'a ici dans 1 Pierre 1, mais ensuite, je vais vous montrer à l'écran les 2 autres fois où on trouve ce mot-là. Maintenant, et ça ne sera pas le même mot en français, mais c'est le même mot en grec. Remarquez dans Luc 22, 44, « Étant en agonie, il, Jésus, priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. » Même mot. C'est intense, la prière de Jésus dans le jardin de Gethsémane. Le mot revient encore dans Actes 12 et le verset 5. Ça nous dit « Pierre, donc, était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. » C'est les 2 places où on trouve ce mot-là, à part dans 1 Pierre, chapitre 1, où ça dit « Aimez-vous ardemment les uns les autres. » Pensez-vous que la prière de Jésus dans Gethsémané était une prière? Non, c'était un combat, c'était intense. Pensez-vous que la réunion de prière qu'ils ont eue à Jérusalem, là, quand Pierre est dans la prison, parce que Jacques avait été tué, puis on avait vu que ça plaisait au peuple, donc là, ils ont arrêté Pierre pour lui faire la même chose. Là, l'Église priait ardemment pour qu'il puisse être délivré. Pensez-vous qu'ils se sont juste dit, « Bon, ben on va-tu prier pour Pierre? »« Ouais, on va prier pour Pierre. Hey, fais-moi un café, je prends une brioche avec ça, s'il te plaît. » OK, bon, ben, qui veut prier pour Pierre? Non, c'était intense. C'était une réunion de prière fervente. Même qu'il était tellement pris dans la prière que quand Pierre a été délivré par l'ange, puis qu'il cogne à la porte, la jeune femme Rod, elle va leur annoncer, puis dit « Ah, c'est son ange », puis il continue. Mais c'était intense. Mais ça, c'est la même. Prenez cette intensité de Gethsémané ou de cette réunion de prière-là, puis amenez-la avec vous ici dans 1 Pierre 1, 22. Aimez-vous ardemment les uns les autres. Ça, c'est pas « Hey, salut », c'est pas ça. C'est intense. Si un membre souffre, tous souffrent avec lui. Si quelqu'un se réjouit, tous se réjouissent avec lui. Laissez-moi être très, très pratique dans l'application. Prenez la résolution que chaque fois que vous rencontrez les frères et les sœurs en Christ, vous allez faire quelque chose pour les aimer. Vous allez prendre l'intensité de Jésus dans Gethsémané et autant que vous le pouvez, vous allez la transposer dans votre investissement envers les autres frères et sœurs. Prenez l'intensité de cette réunion de prière dans Actes alors qu'on priait pour que Pierre sorte de prison, puis amenez-la avec vous à l'église pour vous aimer les uns les autres. Ça peut être une conversation hors norme. Je sais qu'il y a quelqu'un dans l'église, vous savez, ils ne vont pas bien. Puis au lieu de juste dire « Ah, ben bye », vous vous asseyez avec eux, puis vous prenez le 25 minutes que ça prend pour leur parler. Ça peut être ça. C'est peut-être la seule oreille sympathique qu'ils vont avoir cette semaine. Ça peut être de prendre rendez-vous pour rencontrer quelqu'un en dehors des heures de l'Église. Ça peut être de poser un geste concret pour aider une personne s'ils ont besoin. Ça peut être d'aider à combler un besoin matériel, quel qu'il soit. Dans Jean 15, ça nous dit « C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres. » Puis là, il nous donne un standard inatteignable. « Comme je vous ai aimé. » 1 Jean 4, 7 et 8. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Imaginez si Jésus, on sait qu'il est avec nous, là. Mais imaginez que physiquement, là, il venait ce soir à l'église, là, imaginez. Physiquement, il entre, là. Je crois qu'il ne serait pas en retard, là, donc je pense que je vais juste laisser tomber. Mais admettons qu'on est tous assis, puis on est en train de, je suis en train de prêcher, puis Jésus entre, puis il s'assoit là. Ce serait comme, aïe, aïe. Ben, je pense qu'on ne penserait pas que c'est lui. Ce serait la première des affaires, là. Je ne pense pas qu'on croirait que c'est vraiment lui. Mais Jésus arrive en plein milieu du culte, puis là, on le voit, là. Imaginez là, que Jésus ne dit rien à personne. Le culte se termine, mais non. Si Jésus était là, je m'assoirais, là, je serais parlé, on s'entend. Là. Admettons que le culte se termine. Puis Jésus se lève, puis il part. Il ne parle à personne. Il ne fait rien pour personne. Il prend des nouvelles de personne. Il ne prie pour personne. On se dirait, mais que c'est ça? Ce serait impensable. Si Jésus vient ce soir-là, honnêtement, je sais qu'on l'aime parce qu'il nous a aimés le premier, puis on ne l'aime pas pour ce qu'il pourrait faire pour nous, mais je suis convaincu que moi, j'irai le voir, hey, « Seigneur, peux-tu me toucher la gorge juste là, là? Ça fait quelques semaines, j'attends que ça parte, puis ça part pas. » Je vais être franc, là, si Jésus venait puis repartait sans me parler, je serais blessé. Je serais déçu. Parce que ce n'est pas le Jésus que je connais. Le Jésus que je vois là, dans les évangiles, et avant de partir d'ici, là, il parlerait à chaque enfant, conversation, œil à œil, bouche à bouche. Le Jésus que je vois dans les Écritures, là, il prendrait le temps avant de nous connaître, de faire quelque chose. Bon, vous comprenez l'image. Si Jésus venait et repartait sans s'investir du tout, on se dirait, c'est quoi? Pendant que je réfléchissais à ça, je me disais, si c'est vrai de Jésus, que ce serait impensable qu'ils viennent et qu'ils repartent sans aimer. Qu'est-ce qui me donne à moi le droit de faire ça? Si je suis son disciple, ai-je le droit d'être différent de lui? Aimez-vous les uns les autres, dit Jésus, comme je vous ai aimé. Et si ce serait impensable que Jésus vienne à l'Église et puis qu'il reparte sans aimer, c'est impensable que moi, je vienne ici, sans chercher une occasion de démontrer de l'amour à quelqu'un. Nous, vous et moi, nous sommes pour le moment les mains de Jésus. Jésus, il touchait les lépreux, mais maintenant il est au ciel, on attend qu'il revienne. Moi, je n'ai pas le pouvoir de guérir des lépreux, mais je suis les seules mains de Jésus là, qui pourraient toucher certaines personnes. Je ne parle pas pour guérir, là, vous comprenez ce que je veux dire. La bouche de Jésus, c'est vous, c'est moi. L'oreille de Jésus, c'est vous, c'est moi. Nous sommes ses disciples, ceux qui sont supposés lui ressembler. Mais remarquez la base de l'amour fraternel, puis je suis un peu plus long que j'avais pensé ce soir, mais dans le verset 23, il nous donne pourquoi on est comme ça. Ça part de où tout ça? Bien, ça part, pour être direct, de la nouvelle naissance. Ça dit au verset 23, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Peut-être la semaine prochaine, si Dieu le permet, je prendrai plus de temps à parler de la parole. On verra comment le Seigneur dirige, mais c'est parce que nous sommes nés de nouveau que c'est comme ça. La base de l'amour fraternel, d'où ça sort, c'est du fait que nous sommes régénérés. Une vie changée devrait également se traduire par une relation changée avec les autres enfants de Dieu. Puis toutes les mauvaises pensées, puis tous les mauvais sentiments à l'égard de nos frères en Christ doivent être éliminés. Car ses disciples doivent aimer profondément, du fond du cœur. Puis cet amour-là ne peut venir que d'un cœur transformé. Cet amour-là ne doit pas être exprimé superficiellement, mais plutôt profondément. Dans 1 Pierre, chapitre 4 et le verset 8, ça nous dit « Ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. » Régénérer ici, ça veut dire « né de nouveau », c'est le mot « revenir à la vie ». C'est dire que la vie que nous vivons n'est plus l'ancienne vie. Dans 2 Corinthiens 5, 17, vous le connaissez, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes une famille, parce que nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés dans la famille de Dieu. Nous sommes tous dans la même famille, puis parce qu'on est dans la même famille, on doit marcher dans l'amour, pas faux, mais sincère, sans hypocrisie envers les autres membres de la famille. Comment est-ce qu'on y parvient? On y parvient en se préparant. Comment on se prépare? On se prépare en ayant une âme qui obéit à la vérité, qui réagit lorsque l'Esprit montre que nous ne marchons pas dans la vérité. On arrive ici ensemble avec notre cœur pur, avec notre âme pure, notre volonté pure, nos pensées pures, nos sentiments purs. S'il y a du péché, s'il y a de l'amertume, s'il y a de la colère, s'il y a de la quoi que ce soit, on confesse. On demande pardon, on règle la situation au besoin, et ensuite on avance d'un cœur pur. Et ça nous permet d'avoir un amour fraternel sincère, comme le Seigneur. Je termine avec une histoire. Un article récent, je pense ça date de 2020, qui relatait l'histoire de trois frères. C'est une histoire vraie, là. Trois frères propriétaires de restaurants en Inde. Et puis, les trois frères, ils ont trois restaurants sur la même rue, puis se chamaillent constamment pour obtenir des clients. Le monsieur, je vais essayer de le dire, là, Vivekananandan, un long nom, là, 51 ans, propriétaire d'un restaurant populaire appelé Moonrakers, se livre à une concurrence féroce pour attirer les clients dans cette ville de vacances du sud de l'Inde. Si féroce en fait que parfois les points volent. Ses principaux adversaires sont des personnes qui sont sa chair et ses os. Son frère aîné a un restaurant de fruits de mer appelé Moonwalkers, juste en face. Et juste en bas de la même rue, son plus jeune frère dirige Moonrocks. Et les menus des trois restaurants sont pratiquement identiques. Il fut un temps où les trois frères et leur famille s'assoyaient ensemble pour dîner. Les trois frères avaient à l'origine le restaurant Moonrakers, et c'était une véritable entreprise familiale, mais ce n'est plus le cas. L'un des frères a déclaré, « Lorsque l'argent arrive, arrive et arrive, l'amour s'en va. » Puis à plusieurs reprises en 2020, deux des frères se sont battus dans la rue devant des clients surpris. Parfois, c'est comme une bagarre de rue, dit l'un des frères. Les gens disent, c'est une famille compliquée, mais nous voulons juste manger. Tout cela déconcerte les touristes, qui sont souvent arrêtés dans la rue par deux des frères qui font la promotion de leurs restaurants rivaux. Une habitante a déclaré qu'elle voulait manger au Moonrakers original, mais qu'elle était intimidée par les restaurants concurrents. Son mari, qui disait avoir dîné au Moonrakers il y a des années, était encore plus confus. Donc, dans la ville, là-bas, tu as une famille, trois frères, un resto qui en est devenu trois. Puis même les touristes ne savent pas quoi faire parce que les trois frères se chicanent constamment. Maintenant, on se comprend qu'on n'a pas ça normalement dans une église à ce point-là. Mais vous savez, qu'est-ce qu'ils ont besoin de ces trois frères-là? Ils ont besoin d'une guérison de l'âme, leurs sentiments, leur volonté, leur façon de penser. Ils ont besoin d'une guérison, ils ont besoin d'une purification. Et si jamais ils l'ont, savez-vous qu'est-ce qui va arriver? Ils vont se réconcilier. Mais d'ici là, ils vont continuer à se battre. Ça fait une belle histoire drôle pour les touristes dans les journaux. C'est pas drôle. Mais pour moi, si je veux aimer mes frères et sœurs comme je le dois, il faut que j'aie l'âme purifiée par l'obéissance à la vérité, par l'Esprit. Père Céleste, aide-moi dans ma vie à mettre en pratique ces versets. Puis aide-nous collectivement aussi à ce que ce soit le cas. Aide-nous, Seigneur Jésus, à nous préparer à l'amour fraternel, à faire le travail en arrière-plan, le travail sur notre âme, afin que l'amour fraternel soit sincère et sans hypocrisie, comme le dit le verset, et ensuite qu'on puisse faire comme toi tu nous as demandé d'être, de nous aimer les uns les autres tels que tu nous as aimés. Je prie dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.